deuxième jour de travail continue avec la sixième table ronde et j'ai le plaisir d'inviter Anaïs Elio et Sandrine Boussarni qui vont présenter plurilinguisme en milieu scolaire, comment favoriser les langues des élèves et la circulation des savoirs.
Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour ces assises du plurilinguisme et nous allons voir comment favoriser le plurilinguisme en classe. Je suis enseignante dans un collège à Rouen, en France, dans une classe dite FLS, français langue seconde, qui s'inscrit dans le cadre d'un dispositif UPE2A que va nous présenter Sandrine Boussarni.
Donc, je suis coordinatrice de ce qu'on appelle le CASNAV, c'est le Centre Académique pour la Scolarisation des Élèves Allophones, les enfants du voyage. Et donc, on s'occupe effectivement des dispositifs qui accueillent les élèves étrangers en France. Ce sont des dispositifs qui accueillent environ 15 élèves. Et ces groupes sont à la fois multilingues et plurilingues. Et ils sont ensuite présents dans plusieurs établissements. Et ces élèves passent entre 6 et 12 heures dans ces dispositifs pour apprendre le français langue seconde. Puis ensuite, les élèves vont en inclusion dans leur classe de rattachement. Et donc, nous allons voir ici le plurilinguisme dans ce cadre-là.
Donc, pourquoi et comment encourager le plurilinguisme des élèves allophones en classe de FLS? Tout d'abord, la prise en compte de la diversité linguistique des élèves allophones s'inscrit dans l'ouverture de l'école sur une plus grande diversité culturelle, dans une dynamique, bien sûr, d'écologie et de biodiversité des langues. La reconnaissance des acquis antérieurs des élèves, qu'ils soient scolaires ou langagiers, fait partie du processus d'accueil. Il s'agit de respecter toute la personne, c'est-à-dire non seulement l'élève et son parcours scolaire, mais également l'individu et son parcours langagier. Cela permet aux élèves de tisser le lien entre l'avant, l'ailleurs et l'ici maintenant par leur langue. Donc, première activité qui a été mise en place lors de séances plurilingues, le portrait plurilingue. Dans cette activité, il s'agissait bien sûr de faire son portrait, qui est une activité connue par les élèves, car c'est souvent celle qui introduit le cours de FLS. Donc, il y avait les critères classiques du portrait, les langues parlées, le nom, le prénom, la nationalité, etc. À la différence que cette fois, les informations devaient être données en plusieurs langues, pas nécessairement dans le même ordre, et l'élève devait ensuite recouper les informations entre la langue de scolarisation et la langue première. Donc, un affichage plurilingue a été mis en place et à disposition des élèves pour valoriser ce travail et montrer la valorisation des langues comme explicite au sein de l'espace classe. Le mobile plurilingue a été réalisé de façon collective. Il s'agit de banderoles sur lesquelles il est inscrit « Bienvenue ». Cela a été réalisé dans le cadre des portes ouvertes de l'établissement et permet de mettre en relief la spécificité du collège sur l'ouverture aux langues et ainsi de rendre visible la richesse linguistique de l'établissement, de montrer qu'elle est valorisée et acceptée. Cette activité qu'on a appelée les mots de l'école est centrée sur l'inclusion dans le système scolaire. Il s'agissait de rédiger un court texte en langue première assorti d'un petit imagier sur le vocabulaire du matériel scolaire et de la classe. Ces affiches ont été accrochées sur l'espace d'affichage plurilingue afin que des nouveaux élèves qui rejoindraient la classe en cours d'année aient un point d'accroche en langue première et disposent également d'un lexique de base. Ça permet également d'envoyer un message à ces élèves et de présenter le plurilinguisme comme modalité d'accueil dans la classe de FLS. La planche plurilingue naturaliste a également été réalisée à plusieurs mains. Elle s'inscrit dans le cadre d'une sortie au Muséum d'histoire naturelle de Rouen Et là encore, cette réalisation collective où chaque animal en fait, était sous-titré en français, en latin et en langue première, pouvait à la fois aussi servir de support individuel d'apprentissage pour la partie disciplinaire. À la suite de ces activités, nous avons créé au collège un club des langues qui réunit élèves allophones et les autres élèves, les élèves non allophones. Dans ce club, nous proposons des activités de type éveil aux langues, notamment avec la fleur des langues, des activités de biographie langagière, mais également des activités sur la diversité des systèmes d'écriture, afin que chacun puisse se confronter à l'altérité linguistique et la dépasser. Donc, dans ce club, il y a des quiz sur le fonctionnement en linguistique, la répartition des langues dans le monde et leur statut, ce qui permet aux élèves une meilleure compréhension des relations des langues dans le monde. Il y a également des jeux plurilingues, type domino, double, memory, en plusieurs langues, et des initiations aux langues qui sont proposées. L'accent a été apporté à ce que ce soit différents acteurs de la communauté éducative qui fassent ces initiations, qu'ils soient assistants d'éducation, parents d'élèves, professeurs ou élèves eux-mêmes, afin de bien signaler que le plurilinguisme n'est pas le seul apanage des élèves allophones dans l'établissement, mais bien l'affaire de tous. Donc toutes ces activités convergent vers la création d'un écosystème linguistique dans le cadre scolaire. Donc comment la prise en compte du plurilinguisme favorise-t-elle la circulation des savoirs? Donc nous le verrons à deux niveaux, à travers les interactions dans la classe et pour l'enseignement. Donc concernant les interactions entre les élèves et le professeur, les rôles de locuteur expert et de locuteur novice sont en permanence interchangés lors de ces interactions. Cela permet à l'apprenant de montrer ses compétences en langue première au professeur et ainsi de se sentir valorisé, donc mis en confiance, plus serein pour les apprentissages. Ça permet également de faire valider pour l'élève l'appui sur ses langues premières comme ressource pour l'apprentissage. Tout cela génère de l'empowerment au sens de James Cummings, qui favorise la mobilisation scolaire et l'engagement dans les apprentissages. À propos des interactions entre les élèves, les séances plurilingues encouragent la coopération entre pairs, qu'elles soient de type linguistique, entre locuteurs d'une même langue ou non, ou de type mutualisation des compétences, notamment dans les réalisations collectives. Donc, en somme, ça permet de fédérer le groupe grâce à une pédagogie de projet, un projet commun basé sur la diversité des ressources de chacun. Entre l'élève et ses apprentissages, l'interaction entre l'élève, les savoirs et les langues permet une appropriation du savoir en fonction de ses besoins, qu'ils soient communicationnels, affectifs ou bien cognitifs. Tout cela engendre donc des interactions qui sont à la fois qualitatives et collaboratives au sein de la classe. Un exemple rapide pour l'enseignement de la langue de scolarisation. Il s'agissait ici d'une médiation pour l'usage des majuscules en français. Donc chaque élève devait aller au tableau, écrire dans sa langue et dans son système d'écriture surtout, la phrase « Je vais à Paris voir la tour Eiffel ». La question posée aux élèves, quel indice vous a aidé à trouver le mot « Paris » ? Donc, grâce à des approches de type intercompréhension ou comparons nos langues, la prise en compte du plurilinguisme bénéficie à l'apprentissage et à l'enseignement-apprentissage de la langue de scolarisation. Donc, favoriser les langues des élèves génère un environnement linguistique sécurisant qui permet une meilleure entrée dans les apprentissages et dans la langue de scolarisation, ce qui influe sur la qualité des interactions. Ça permet de légitimer les langues premières comme outils cognitifs, d'autant plus que les ressources plurilingues sont très utilisées par les élèves, mais souvent rendues non visibles ou non explicites par ces derniers, par manque de validation des acteurs éducatifs. Donc cet environnement linguistique produit des interactions qui sont donc, comme nous l'avons vu, qualitatives, collaboratives, ce qui contribue à une meilleure circulation des savoirs entre les membres de la classe qui se sentent acceptés, valorisés et qui ont donc confiance en la relation éducative. Ça permet également de respecter la biodiversité linguistique naturelle de la classe, grâce à la négociation que les langues occupent au sein de la classe. Merci pour votre attention.
Alors bon, on peut continuer avec quelques questions au sujet de la présentation en fait, ou des remarques.
À ce moment-là, comment est-ce que vous faites pour intégrer ces enfants-là?
Alors, les séances plurilingues qui ont été réalisées, que j'ai montrées dans cet exposé, se sont inscrites dans le cadre d'un groupe FLS 12 heures, donc débutant, mais scolarisé antérieurement. Ce pourquoi on pouvait utiliser des supports écrits. En NSA, on essaie de valoriser, pour les élèves non scolarisés, pardon, antérieurement, on essaie de valoriser plutôt les compétences à l'oral, en faisant le lien pour le vocabulaire, sur leurs mots dans leur langue, dans leur première, en ayant toujours le souci de savoir comment on dit dans leur langue, etc., pour créer le lien au départ. Et après, dès qu'ils peuvent rentrer dans l'écrit, on peut passer sur des activités de type écrit. Mais il y a également des réalisations qui peuvent être de type oral, comme des enregistrements, etc., qui permettent aux élèves qui ne sont pas encore rentrés dans l'écrit de participer à ces séances et de valoriser eux-mêmes leur langue.
Les gens du voyage, vous en avez beaucoup ? Des gens du voyage ?
Il y en a dans l'Académie de Rouen, mais très peu sont scolarisés. Certains à l'école primaire et par contre pas du tout au collège, parce que souvent ils choisissent un enseignement par correspondance et qui n'est pas très efficace, on va dire. Et donc ça, c'est une problématique qui va être l'année prochaine... un sujet à traiter, notamment avec la préfecture.
Quand vous parlez de gens du voyage, c'est ceux du locaux, quoi, les gens du voyage
français,
par exemple roumains, comme il y en a aussi. Vous parlez de quel type gens du voyage? Ceux qui viennent, qui sont français, quoi,
oui.
Qui se déplacent.
Oui.
Ou est-ce qu'il y a également vous avez également des gens du voyage étrangers?
Les gens du voyage auxquels on a à faire dans le cadre de la scolarisation, souvent ce sont des gens qui ont la nationalité française, qui ont simplement un mode de vie voyageur.
Ils parlent encore ? Ils parlent leur langue ?
Non, ça se perd aussi. Leurs langues premières sont peu utilisées.
Alors, quelles seraient quelques difficultés les plus... en fait, difficile à gérer quand il s'agit d'une telle approche?
En fait, au début, les élèves sont étonnés par cette approche parce qu'ils ont l'impression que ça sort du cadre des attentes de l'enseignant. Lors des premières séances, beaucoup d'élèves ont essayé de contourner l'activité en rédigeant le portrait uniquement en français ou alors en me disant « je ne veux pas parler ma langue », cas dans lequel on adapte, tu peux choisir une autre langue, une langue qui est enseignée dans l'école, etc. Le but étant de valoriser langue première, certes, mais de valoriser aussi la diversité linguistique au sens large. Donc on n'impose pas que ce soit forcément la langue maternelle ou la langue première des élèves. Ils choisissent la langue avec laquelle ils se sentent le plus à l'aise pour réaliser l'activité. Donc l'attitude des élèves au début a été un peu réticente, parce qu'ils sont vraiment étonnés par cette demande de l'enseignant de faire autre chose que du français en cours de français. Mais par la suite, les élèves ont vraiment évolué, se sont vraiment appropriés en fait, ces séances et ce que ça pouvait leur apporter pour être à la fin de cette période totalement demandeur de ces activités plurilingues et en faisant des ponts entre les langues, même dans des moments de cours, on était plus centré sur le français, sur la langue de scolarisation. C'est devenu pour eux une approche naturelle d'apprentissage, de se baser sur les langues étrangères, qu'elles soient premières ou des langues vivantes, pour faire un lien entre les langues et construire un processus d'apprentissage.
Et on doit ajouter que, en fait, dans ces dispositifs, les élèves souvent ont 2, 3, 4 langues déjà acquises, et qu'il y a des interactions qui se créent entre eux en découvrant des langues communes. Et en fait, ça va se découvrir au fur et à mesure.
Merci. Nous, notre association, ICO, Institut de coopération avec l'Europe orientale et centrale, nous avons essayé de monter un projet pour l'intégration des Tziganes. Et nous avions des partenaires, mais on n'a pas réussi à finaliser le projet, à Rimnikovalcha. Et nous avons travaillé avec un directeur d'école, qui est directeur d'une école dans la banlieue sud de Rimnikovalcha, je crois que ça s'appelle Colonia Anucci ou quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. Et ce directeur d'école est quelqu'un de tout à fait remarquable. Il a une école où la majorité de ses élèves sont des Tziganes, qu'il a parfaitement réussi à intégrer, à faire travailler. Certains sont devenus assez brillants. Malheureusement, ils sont repris par leur système familial qui souvent les empêche de pousser plus haut les études, comme trop souvent. Mais son expérience est vraiment très intéressante. Et si ça vous intéresse, on peut vous mettre en contact avec lui et les gens que nous connaissons, Rimnikovalcha, qui parle français aussi. Et ça peut peut-être vous donner des idées sur si vous avez à travailler avec des milieux gitans. Vous n'en avez pas trop chez vous à Rouen, peut-être. Nous, dans le Midi, on en a davantage. On a essayé de faire quelque chose aussi avec nos gitans de Montpellier, de Béziers, d'Agde, tous ces patelins. Ce n'est pas facile à accrocher. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette expérience à Rimnikovalcha est particulièrement intéressante parce que ce directeur d'école est vraiment un type formidable. Donc on peut vous donner les contacts si ça vous intéresse.
En fait, je rajoute que l'important, en fait, pour la scolarisation, que ce soit les élèves allophones ou les enfants du voyage, c'est vraiment l'école de la confiance et une école accueillante. Et à partir de là, effectivement, peut se créer des liens et favoriser la scolarisation. Une question aussi un peu souvent de personnes.
Je voudrais poser une question en lien avec les élèves francophones que vous avez certainement dans votre école et qui ont une certaine connaissance du français en arrivant en France. Quelle est leur perception du français qu'ils parlaient avant d'arriver ici et comment vous gérez cette situation dans votre école en fait?
On a beaucoup d'élèves francophones d'Afrique. Qui sont souvent en situation d'insécurité linguistique par rapport au français, mais par rapport au français scolaire, par rapport à cette variation-là. Ils ont peu confiance en eux à cause de ça. Le but est de les rassurer en disant qu'ils sont totalement francophones puisqu'on peut communiquer avec eux et qu'il s'agit juste d'un type de français à acquérir au même titre que tous les élèves qui rentrent dans les apprentissages. Et de valoriser aussi leur langue afin qu'ils soient en pleine confiance dans le système scolaire.
Alors, je peux continuer un peu peut-être. Quel serait l'intérêt pour vous d'enseigner le français à ces francophones? Peut-être, certainement, dans votre école, il y a des non-francophones qui viennent apprendre le français. Est-ce que vous les mettez dans les mêmes conditions d'apprentissage? Ou est-ce qu'il y a des classes séparées, des classes pour les francophones à part
voilà. En fait, dans les dispositifs qui sont donc pour les élèves allophones, il y a soit le groupe débutant, donc ça veut dire 12 heures de français langue seconde. C'est vraiment pour des élèves qui soit n'ont pas du tout le français, soit ils sont francophones, mais ils peuvent être francophones à l'oral et pas à l'écrit. Donc, c'est vraiment des dispositifs qui sont faits avec des programmes personnalisés suivant le profil de chaque élève. Donc on va dire qu'ils sont dans les mêmes dispositifs, mais simplement la pédagogie est forcément différenciée.
Merci.
Merci. Je vous félicite pour votre approche, surtout de consciencialisation de la valeur de la langue première ou de la langue d'arrivée, puisque souvent le système scolaire détruit les représentations et les conceptions, donc je vous félicite. Il y a plusieurs projets là-dessus, et il y a particulièrement un gros projet européen qui s'appelle Multilingual Classroom, que je peux vous donner des contacts, parce qu'il y a des projets, partout en Europe, il y a plusieurs approches très intéressantes, peut-être pas aussi concrètes que la vôtre, qui me semble vraiment très sur le terrain et très bien. Moi, plus on est théorique, plus on s'éloigne de la réalité, donc je vous félicite. Juste vous demander quel impact, je suppose que ça se passe dans une école qui est fréquentée par des Français francophones aussi, est-ce que ça a un impact sur la consciencialisation chez les Français par rapport aux langues étrangères? C'est-à-dire, est-ce que ça permet aussi aux francophones de souche, disons-le comme ça, français langue première, de développer leur awareness of language, de la diversité linguistique?
Alors en fait, dans le collège où est ce dispositif, on pourrait croire qu'il y a des francophones dits de souche, mais souvent on se rend compte qu'ils sont effectivement en France, mais à la maison ils parlent de toute façon une autre langue familiale. Et jusqu'à présent, pour eux, c'était un peu tabou. Et le fait de mettre en valeur les langues des autres élèves, et parfois il y a des interactions même en dehors en fait du dispositif, c'est-à-dire dans des classes d'histoire, de géographie, etc., où ils vont finalement avoir le droit de donner un mot ou une autre vision, et pour le coup ça essaime un petit peu. Donc on espère, notamment avec le club des langues, qu'il y ait plus d'échanges, parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas de concentrer les activités sur le dispositif, mais bien de l'intégrer dans l'établissement en général. Et nous avons cette année, notamment avec les professeurs de langue, donc d'espagnol et d'anglais, travaillé justement l'apprentissage aussi d'une deuxième langue, etc. Donc pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Mais bon, ça avance.
Pour rebondir sur les propos de Madame Boussarnili, il y a déjà ce type en fait de awareness qui est présent chez les élèves qui sont généralement plurilingues dans tout l'établissement. L'idée par ces séances, c'est vraiment de montrer que c'est accepté et reconnu par le corps enseignant et autorisé à faire rentrer ces pratiques plurilingues au cœur de la classe et les légitimer, parce qu'elles sont très présentes, mais un peu cachées, dissimulées par les élèves. C'est surtout une opération de légitimation, de validation par le corps enseignant de ce qui se passe déjà dans les interactions entre les élèves.
Et on découvre aussi que certains enseignants personnels de l'établissement ont aussi d'autres langues qu'ils osent finalement partager avec nous.
Alors on peut continuer.